7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique avec le coach Didier Akouété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le président d'Afrique Search et aujourd'hui c'est le retour d'Afrique Talent à Paris, le forum de recrutement qui se relance après 2 ans de pandémie et vous fêtez aussi un anniversaire.
Ah bah oui, les 25 ans d'Afrique Search.
Eh bah bon anniversaire.
Merci
Bravo
Emmanuel.
À vous.
Merci.
Vous conseillez dans cette émission chaque mois un jeune entrepreneur qui lance son entreprise et pour dialoguer avec le coach, les voisines et les voisins, c'est très simple. Il vous suffit de nous contacter au 33 7 64 45 51 41. Mais attention, vous devez être capable de nous parler de l'entreprise que vous avez créée ou que vous souhaitez créer pour répondre à quels besoins, avec quels objectifs commerciaux. Un mot aussi sur le modèle économique, ça peut servir. Et puis justement, en deuxième partie d'émission, débat avec des patrons confirmés de PME, beaucoup plus expérimentés. Aujourd'hui, un sujet qui concerne énormément d'entrepreneurs. Comment remettre à jour son modèle économique lorsque, par exemple, la croissance n'est pas au rendez-vous, lorsque les investisseurs demandent à revoir le business plan, lorsqu'il faut rebondir aussi après une pandémie, se réinventer. C'est pas facile de garder le cap et ils vont nous dire comment ils ont fait. Nos invités, nos patrons de PME, Gilles-Alexandre Ndia, directeur général et cofondateur de Weblogis, entreprise de marketing digital et de systèmes d'information. Et puis Jules Kébé, directeur général de Duopharm, entreprise de produits pharmaceutiques distribués dans les pharmacies au Sénégal. Et tout de suite, on démarre avec des questions au coach. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et nous accueillons un jeune entrepreneur. Bonjour Yedidia Mengalikitas Lisaka.
Bonjour Emmanuel.
Yedidia, vous avez 28 ans, vous êtes à Kinshasa, vous avez étudié l'ingénierie électronique et vous avez créé une petite entreprise qui s'appelle Ishango Lokasa Motabeli, qui signifie exactement Lingala.
Alors, c'est purement conceptuel. Parce que Ishango en soi, c'est le symbole de l'excellence de la technologie ici en RDC. Donc en l'honneur de cela, on a dénommé notre entreprise Ishango Lokasa Mobateli qui veut simplement dire technologie. Et Lokasa Mobateli qui veut dire emballage. Donc c'est une technologie que nous avons mise en place pour les emballages. Voilà.
Donc cette entreprise a été créée d'abord dans l'informel, formalisée en août dernier, donc il y a moins d'un an. Et vous fabriquez
Exactement.
Et vous vendez. Et vous distribuez des sacs en papier craft. Je ne sais pas si je devrais dire papier craft d'ailleurs, parce que c'est à partir de déchets agricoles et forestiers. Ça veut dire que vos sacs en papier ne sont pas fabriqués à partir de pâte à papier ordinaire. Ce ne sont pas les arbres.
Non, ce ne sont pas les arbres, ce sont des fibres végétales issues de déchets agricoles. Voilà.
C'est-à-dire ?
Nous prenons les épluchures. Ça peut être les épluchures du plantain, de la patate douce, de l'igname. Que nous transformons en pâte à papier et puis on va le transformer en papier.
Comment vous transformez ça en papier, des épluchures de légumes ?
Déjà, pour produire du papier, on a besoin de ce qu'on appelle la cellulose. Or, tout ce qui existe sur Terre comme végétaux a de la cellulose. Bien sûr, ça dépend des concentrations. Or, dernièrement, on a compris que on pouvait aussi produire du papier tout en utilisant les déchets agricoles, c'est-à-dire le rhizome du bananier, la peau de patate douce. Voilà, donc tout ce qu'il y a comme épluchure agroalimentaire, on peut l'utiliser pour en produire du papier.
On peut l'utiliser, encore faut-il savoir comment. Vous ne voulez pas donner la recette.
Voilà.
C'est le secret
Évidemment,
maison.
C'est le secret industriel.
Non, mais plus sérieusement, vous avez déposé un brevet ?
Alors, on a amorcé la procédure. Parce qu'ici en RDC, pour qu'on puisse vous délivrer un brevet, c'est exactement une année, mais on va vous délivrer ce qu'on appelle une quittance. Mmh.
Vous voilà. avez mis au point plusieurs types de sacs. Hein. Il y a des sacs qui résistent jusqu'à un poids de 30 kg. Il y a des sacs qui permettent d'emballer de la nourriture frite, des beignets, gras. Comment vous faites pour faire des sacs imperméables à partir d'épluchures de légumes ?
Pas forcément. On a fait ce qu'on appelle... de la bio-ingénierie. C'est-à-dire, on a étudié quelles substances, par exemple dégagées par les abeilles, si je veux le dire comme ça, qui peut rendre notre papier imperméable à l'eau ou imperméable à l'huile. C'est-à-dire, après avoir qu'on ait transformé la pâte à papier, enfin en papier, on va traiter encore ce papier, par exemple, avec une substance que dégagent les abeilles,
ouais,
qui rend ce papier imperméable à l'eau et imperméable à l'huile.
Par exemple, un dérivé de cire d'abeille.
Mm-hmm. Par exemple, ah. Voilà.
Donc aujourd'hui, vous avez une équipe de 19 personnes. 90% de la production est manuelle. C'est encore très artisanal. Uh-huh. Et vous êtes sur uh-huh. un marché où il y a beaucoup de sacs en papier qui arrivent d'Inde, du Pakistan, de Chine, de partout, qui sont fabriqués dans des usines en très grande quantité.
En fait, c'est pas exactement ça. Ce sont pas les sacs en papier, mais c'est ce qu'on appelle des sacs à nantifé. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
C'est du polypropylène. Mais c'est sous forme du coton, en fait.
Donc, c'est un dérivé du pétrole. Voilà. Donc, en réalité, ça ne se dégrade pas complètement.
En fait, ça se dégrade, mais le grand problème, ça se dégrade à la dimension du sable. C'est-à-dire, c'est confondu au sable. Donc, c'est même plus dangereux parce qu'on ne sait pas reconnaître cette matière. Voilà.
Ce que vous
on ne sait pas distinguer. Oui.
Ce que vous êtes en train de nous dire, Yedidia, c'est que vos sacs en papier, il y a une dimension écologique absolument essentielle dans un pays comme la RDC, qui a en principe interdit les sacs plastiques depuis le décret de 2017, mais qui a énormément de mal à faire appliquer cette interdiction.
Exactement, c'est parce que, comment dire, macroéconomie, que l'État doit assurer le bien-être de sa population. Alors du coup, derrière, il n'y a pas eu cette alternative. C'est tout de même parti de notre idée. C'est parce qu'en décembre 2017, le gouvernement avait dégagé l'interdiction sur l'utilisation. Et derrière, il n'y a pas eu une alternative à grande échelle. Alors, comme le disait John Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, nous nous sommes posé la question et nous avons conclu que nous devons mettre en place une structure qui va assurer la production des emballages en papier afin de pallier à cette pénurie d'emballages que la décision avait créée, mais surtout afin de mettre aussi en place un emballage ou bien des emballages qui répondent aux normes environnementales. Voilà.
Et avec une production locale. Alors, quelles sont les questions que vous souhaitez poser à Didier Akwété, qui est à mes côtés?
Alors, la première est, pour l'instant, le prix de nos emballages est très cher pour le marché. Donc, on ne peut pas vendre nos produits, enfin, on vend nos produits à certaines entreprises. Et on ne peut pas créer une chaîne de valeur. C'est-à-dire, on ne peut pas passer par les grossistes, enfin, semi-grossistes, les détaillants et autres. Alors, comment parvenir à créer cette chaîne de valeur dans notre situation actuelle? Voilà, ça, c'est la première question.
Didier Akwété.
Vous êtes sur un marché de niche, en fait, aujourd'hui, parce que c'est vrai. Vous anticipez les tendances à venir, c'est éco-friendly, environnement responsable, etc. Mais c'est valable dans des marchés où les règles sont respectées. C'est-à-dire, quand on dit zéro plastique, c'est respecté, personne n'en fait venir. Or là, vous êtes sur un marché, j'allais dire un marché sauvage, dans la mesure où les produits viennent de partout et de toutes sortes de qualités. Donc, le principe, c'est que vous devez accepter pour l'instant d'être dans une niche, c'est-à-dire des clients qui sont prêts à acheter un petit peu plus cher ce genre de sac, ce genre d'emballage, en sachant qu'il ne faut pas juste qu'ils achètent parce qu'ils sont sympas pour l'environnement, mais parce que ça répond aussi à un besoin. Et donc ça rejoint le débat qu'on aura tout à l'heure sur le modèle économique. Le client est prêt à payer un service plus cher s'il lui apporte une vraie valeur ajoutée.
Le marché des emballages biodégradables est estimé, selon le business plan de Yedidia, à 220 millions de pièces par an.
Oui, c'est déjà un bon. Si vous allez en supermarché, vous allez en boulangerie, le sac est quand même massivement consommé. Et donc, à terme, c'est comment faire baisser vos coûts pour que votre produit, tout en respectant ces critères que vous avez élaborés et qui sont des critères géniaux, puisse en même temps pénétrer largement le marché.
Congolais. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur le marché congolais.
Pour l'instant. Alors, le marché congolais, en sachant qu'il peut tout à fait s'adresser à un marché régional, parce que la niche est valable localement, mais valable aussi sur d'autres marchés, mais il y a clairement un coût de transport qu'il faudra ajouter. Mais mon point, c'est que, effectivement, si aujourd'hui vous avez une innovation majeure, et c'est vrai, l'innovation a un prix, vous êtes obligé d'accélérer en réalité la stratégie de volume pour baisser les coûts et conquérir le marché, parce que le danger, c'est que d'autres le fassent en grosse quantité et donc baissent les coûts beaucoup plus que vous et vous sortent du marché. Donc, vous êtes confronté à une problématique d'accélération de votre développement pour arriver à conquérir un marché plus large avec un coût plus acceptable qui devient même presque, en termes de coûts, comparable aux emballages classiques. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'énergie.
Pour baisser les coûts, il faut trouver de l'argent, il faut lever des fonds pour acheter des machines et industrialiser le process qui est encore très artisanal.
C'est ça, mais du volume. Et donc, si demain, vous arrivez à convaincre un industriel qui produit des produits distribués en supermarché, mais qui a besoin d'un emballage donc pour contenir ses aliments et qui est prêt à vous commander un certain volume, et ben vous signez un contrat spécifique et là, effectivement, le banquier et l'investisseur peut vous accompagner parce que vous commencez à être dans des volumes importants pour des marchés industriels qui ont besoin de votre emballage.
Notamment de l'agroalimentaire. S'adosser à une industrie agroalimentaire éventuellement.
Exactement. Quelqu'un qui fait, je sais pas, des pommes de terre emballées.
Des entreprises d'agroalimentaire
qui sont emballées. Pourquoi pas?
Exactement. Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises qui sont dans la transformation ou en agroalimentaire. Voilà. Mais nous aussi, en parallèle, ça nous a aussi obligé un tout petit peu de mettre en place une structure qui fait ce qu'on appelle de la farine panifiable. Voilà. C'est-à-dire avec les épluchures du manioc, on utilise aussi ces épluchures pour transformer de la pâte à papier. Voilà.
Mais vous restez toujours dans votre business d'emballage.
Exactement.
Donc en fait, non, je voulais juste conclure cette première question en disant effectivement, l'innovation a toujours un coût, malheureusement, jusqu'à ce qu'on arrive à baisser le coût de production par le volume, comme typiquement, quand vous prenez l'énergie solaire aujourd'hui, le prix du kilowattheure par le solaire est équivalent aux énergies fossiles, c'est ce qu'on nous dit. Donc, du coup, les gens ont une alternative abordable, un coût abordable. Et donc, comment vous arrivez à baisser vos coûts par du volume en allant sur des commandes industrielles ou semi-industriels qui vous garantissent une taille de marché qui permet à l'investisseur d'être assuré de financer votre industrialisation. Parce que c'est là tout l'enjeu. Les matières premières, vous les trouvez localement aussi, j'imagine. Et donc, pour moi, c'est un deuxième enjeu. Quand vous allez passer en phase d'industrialisation massive, assurez-vous que vous avez suffisamment de matières premières pour satisfaire vos commandes.
Donc les bonnes filières pour récupérer les déchets agricoles.
Et que vos matières premières, le prix de vos matières premières n'augmente pas. Sinon, vous aurez fait tout ça pour finalement répercuter le coût des matières premières qui vous servent à produire vos sacs alors que vous cherchez à baisser vos coûts.
Didier, à l'heure actuelle, vous arrivez à produire combien de sacs par an?
Par an, par exemple, l'année passée, nous sommes allés à 40 000 pièces déjà.
40 000 pièces de sacs en papier biodégradable.
Voilà.
Vous avez une autre question, Yedidia. Parce que là, votre objectif, c'est d'arriver à 17 millions. Hein, donc, de passer de 40 000 pièces à 17 millions.
Oui, exactement. Alors, il y a trois entreprises en Inde aussi qui est spécialisée dans la production du papier à base des déchets agricoles. Alors, la question est de savoir, est-ce que nous pouvons sous-traiter notre production de papier afin que nous puissions nous concentrer sur la fabrication des emballages? Est-ce que c'est une bonne idée de procéder de la manière?
D'acheter du papier tout fait et ensuite de fabriquer uniquement les sacs en filière locale à Kinshasa.
Voilà.
C'est une décision stratégique en réalité. Si vous faites ça, effectivement, vous vous concentrez sur un segment, enfin une partie de votre cycle d'activité, ça vous libère de la partie production et là, vous soulagez pour aller sur la fin de la chaîne de valeur en sachant que vous vous fragilisez parce que celui qui vous produit ce papier, entre guillemets, vous êtes à sa merci et donc demain, il peut vous piquer votre marché ou alors ne pas vous livrer dans les temps et donc fragiliser votre business. Donc, tout dépend Si, par exemple, dans le contrat que vous signez, bon, bien sûr, ça se fait, hein, les clauses sont relativement sont très précises, sont très claires, et qu'il ne vous demande pas d'apporter beaucoup de ressources en amont, parce qu'au début, il va vous demander de payer cash, parce qu'il ne vous fait pas confiance, etc. etc. Pourquoi pas ? Ou alors, il devient un partenaire industriel dans votre stratégie, qui trouve de l'intérêt dans votre projet, dans votre marché, et dans l'expansion que vous proposez en Afrique. Donc, c'est une décision stratégique. Deuxième orientation stratégique, et c'est la deuxième réponse. Si aujourd'hui, vous, quand vous faites votre business plan, vous vous rendez compte que produire localement revient moins cher, ou en tout cas, coût équivalent à ce qui est fait en Inde, allez plutôt sur la production locale tout de suite. C'est-à-dire, trouvez tout de suite l'investissement et investissez localement pour transformer localement, parce que vous allez gagner du temps et vous allez tenir votre marché assez vite. Donc, c'est une décision stratégique qui est liée aussi à vos moyens, à la manière dont vous allez accélérer votre présence sur le marché.
Et à la communication, parce que si on achète le papier biodégradable déjà tout prêt en Inde, c'est difficile de communiquer sur, sur une filière 100% congolaise. Et ça peut compter, la communication sur des produits comme ça.
Oui, ça compte. Bah, après, les gens trichent bien. Hein. On dit bah, c'est made in Congo, mais on ne sait pas ce qui est made in Congo. On dit que c'est made, mais tout n'est pas fait. Comme certains téléphones qu'on montait au Congo, on dit c'est made in Congo, alors que tous les composants venaient de Chine, quoi. Ou même des produits qu'on achète en France, on dit made in France, alors que tout est fait en Chine, c'est juste assemblé. Donc ça, c'est pas trop le problème, à mon avis, que vous allez rencontrer. Mais c'est vraiment stratégiquement comment vous vous positionnez par rapport à un développement industriel à venir et les capacités que vous pourrez mobiliser pour industrialiser tout de suite localement, ou alors passer par cette première étape de trouver un industriel à l'étranger, parce qu'effectivement, vous allez faire la course au volume assez vite maintenant.
Yedidia ?
Il y a ce problème, comme l'a dit Didier, ce problème de course par rapport au marché. C'est-à-dire, maintenant, nous avons énormément de commandes que nous ne pouvons pas subvenir, simplement c'est parce qu'on a un problème de quantité de production. Or, cette stratégie, je crois que ça peut, le temps que nous, on puisse mettre en place notre industrie, de production de papier à grande échelle. Moi, je...
Ah oui, acheter du papier en Inde en attendant pour ne pas perdre vos clients qui sont intéressés par, ces produits.
Ah bah bien sûr, non, mais il vaut mieux faire ça pour ne pas perdre les clients, parce qu'une fois que d'autres fournisseurs les serviront, vous perdrez les clients. Donc, effectivement, ça peut être une première étape aujourd'hui pour satisfaire votre marché. Cadrer bien le contrat avec ces fabricants, le temps de monter en gamme vous-même en termes de production.
Juste, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue plus général, Didier ? Parce que Yedidia, il n'est pas seul sur ce marché des sacs écologiques. Les Indiens, ils savent parfaitement fabriquer les sacs jusqu'au bout. Hein. Ils n'ont pas besoin de vendre seulement le papier. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? À quelles conditions ? Est-ce que vous pensez qu'Yedidia a de l'avenir sur ce marché en RDC ?
Et alors, il a de l'avenir. Il est sur un marché qui est amené à se développer. Il a deux contraintes. La première contrainte, elle est financière. C'est-à-dire, il faut qu'il puisse avoir des ressources pour industrialiser, aller assez vite et produire à moindre coût, entre guillemets, en tout cas, ou à coût équivalent par rapport à ses concurrents internationaux. Deuxièmement, la réglementation. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire du lobby au niveau de votre marché, de votre pays, pour qu'on ferme les frontières à ces produits qui viennent de l'étranger, pour permettre à une production locale d'exister, là, vous allez régler en partie le problème. Et c'est ça auquel nous sommes confrontés dans beaucoup de nos pays souvent. C'est-à-dire on veut développer l'industrie locale tout en laissant les marchés ouverts aux gros industriels qui sont à des coûts 2-3 fois inférieurs. Donc, il y a un problème de régulation, de réglementation et bien sûr d'investissement.
Yedidia, vous nous tenez au courant. Je sais que vous avez déjà gagné des concours de projets d'entreprise. On a envie de vous suivre, bien sûr.
Ouais. Exactement.
Bonne chance à Kinshasa pour ces sacs en papier biodégradables. Et quant à vous qui nous écoutez, les voisines et les voisins, surtout les voisines, on ne reçoit pas assez de projets de voisines. Si vous êtes en train de démarrer une entreprise comme Yedidia, c'est le moment de dialoguer avec le coach. Vous nous contactez dès maintenant pour passer dans la prochaine émission. Vous savez que Didier est souvent en escale chez 7 milliards de voisins.
Toujours avec plaisir.
Impitoyable et bienveillant.
Toujours bienveillant quand même.
Allez, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. 31, Didier Acouetté, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec des patrons de PME pour parler du modèle économique, justement, comment remettre à jour son modèle économique quand les circonstances l'exigent. Ce sera juste après ce duo Cora-Griot.
Freedom, equal rights and justice. Freedom, equal rights and justice.
Par Djali Keba Susso, c'est un joueur de Cora-Griot gambien basé à Londres. Vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes sur RFI, Entreprendre en Afrique, la suite. Vous le savez, en première partie d'émission, le coach Didier Acouetté écoute, conseille une toute jeune entreprise du continent. Et maintenant, discussion avec des patrons de PME qui nous racontent les difficultés qu'ils ont traversées. Et aujourd'hui, avec un sujet, comment remettre à jour son business plan, son modèle économique. On en discute avec nos invités. Gilles-Alexandre Ndia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général, cofondateur de Weblogy avec Daniel Awassa, entreprise de marketing digital, de système d'information communautaire sur l'Afrique francophone. Vous avez co-créé Abidjan.net, près de 7 millions de visites par jour sur ce média qui est désormais extrêmement connu. Et puis, vous avez fait aussi votre entrée dans les fintech avec des cartes prépayées. Également avec nous, Jules Kébé, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Dakar, directeur général de Duopharm, une entreprise de produits pharmaceutiques distribuée dans les pharmacies au Sénégal avec près de 250 employés. Didier Acouetté, juste un mot. Pour les jeunes qui nous écoutent, le modèle économique, ce n'est pas une feuille de route établie au début d'un projet, coulée dans le bronze.
Alors non, c'est vrai que c'est un thème qui est très à la mode depuis une quinzaine d'années avec les start-up, les incubateurs. Et tout le monde ne parle que de business model, de modèle économique qui, c'est vrai, est quand même le point de départ important puisque c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent et finalement de faire vivre votre projet. Et donc, c'est effectivement, ce n'est pas gravé dans le marbre, il est amené à évoluer, à être dynamique. Et je suis sûr que les grands patrons que nous avons en ligne nous raconteront leurs anecdotes puisque nous-mêmes, nous sommes passés par là. Il fallait réinventer notre modèle économique quand on a créé le cabinet il y a 25 ans.
Gilles-Alexandre Ndia, d'ailleurs, vous-même, vous n'avez jamais eu de patron. Vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire que c'était difficile pour vous de construire un modèle économique ?
Alors, le modèle économique était pratiquement inexistant au départ parce qu'on ne savait même pas en fait dans quoi on rentrait. On était juste fasciné par les nouvelles technologies, on était juste fasciné par le fait que ça marche. Et donc, on voulait innover. mais on ne se rendait jamais compte en fait qu'il fallait gagner de l'argent.
Au départ, vous vous êtes dit très classiquement, bah, ça se finance comme n'importe quel média privé par de la pub.
Alors non, au début, quand on a commencé le média, ce n'était pas un média. C'était juste une plateforme communautaire où tout le monde devait se réunir et pouvoir échanger. Le média est venu un peu plus tard, dans les services qu'on voulait, à valeur ajoutée qu'on voulait rajouter. Et lorsque le média en fait a pris le dessus sur tout, on s'est dit, bah, comment on gagne de l'argent avec le média? Oui, sur les journaux, c'est facile, c'est de la publicité. Mais sur Internet, à l'époque, ce n'était pas évident, la publicité. Et on n'avait jamais fait du média. Je n'avais pas fait des cours de journaliste à l'université. Donc, j'étais complètement bleu, en fait, dans cette industrie. Mais ce qui nous fascinait, c'était l'Internet. Donc, c'était les nouvelles technologies, l'innovation. Et ça, c'est le message que je veux transmettre aux jeunes et que je transmets tous les jours à travers notre fondation Kaiden. Il faut arrêter d'être fasciné en fait, par les nouvelles technologies parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut gagner de l'argent, il faut un modèle économique. Et quand on n'en a pas, mais on se casse la figure au bout d'un moment.
Ce n'est pas parce qu'on lance un média dans le digital qu'on a un modèle économique. Comment vous êtes parvenu à monter ce modèle économique et à quel moment vous êtes arrivé à l'évidence qu'il fallait aussi se diversifier et donc faire évoluer votre modèle économique?
Alors, c'est vrai que dès le départ, en fait, on n'a pas un modèle économique. Alors, ce qu'on a fait, c'est regarder ce que les autres font. Alors, l'Internet était très à la mode, les médias commençaient à arriver petit à petit sur l'Internet. À l'époque, on avait Yahoo, le grand moteur de recherche. Donc, on se disait, ah tiens, regardons ce que Yahoo fait. Et quand on allait sur ces pages, on voyait des bandeaux publicitaires et on se disait, ah, mais c'est peut-être ça la clé, en fait. Et donc, le modèle économique, c'est déjà de regarder ce que les concurrents font. Ça commence par là. Et une fois qu'on regarde ce que le concurrent fait, c'est de voir, en fait, comment on peut faire mieux ou comment on peut l'adapter à notre cible. Et donc, ben, on a commencé, en fait, par de la publicité, comme les concurrents le faisaient.
Et la diversification, quand vous êtes arrivé en 2006 dans la fintech, c'était aussi pour créer de l'argent, des rentrées pour financer le média ou pas?
Alors, l'arrivée dans la fintech a été en fait une suite logique en fait du média. Parce qu'on arrivait en fait, on avait commencé à rentrer dans le e-commerce. Donc, on avait des plateformes de e-commerce où on vendait des journaux, on vendait des articles, on vendait des tickets de concert, on vendait de la nourriture. Personne n'arrivait à nous payer. Et donc, on se disait, mais il y a un véritable problème. Il n'y a que la diaspora qui est capable de nous payer. Le local est incapable de nous payer.
Mais par manque de bancarisation.
Ah oui, par manque de bancarisation et par manque de moyens de paiement aussi. Donc, il fallait rentrer, en fait, dans un système où ils pouvaient nous payer de façon digitale. Mais il fallait que ça soit aussi un système transversal. C'est-à-dire qu'on n'allait pas multiplier les acceptations. Celui qui est à Paris ici me paye par une carte Visa. Il faut que celui qui est à Abidjan aussi puisse le payer aussi par une carte Visa. Donc, on essayait d'uniformiser en fait les moyens de paiement. Et donc, on a décidé de rentrer dans les cartes prépayées.
Et donc, à ce moment-là, vous revoyez tout le modèle économique du groupe?
Tout le modèle économique du groupe, oui, est un peu revu à cause maintenant de l'entrée dans la fintech, parce que le modèle de la fintech est complètement différent du modèle du média. Mais nous avons surfé en fait dessus pour pouvoir le faire. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment deux modèles différents mais complémentaires.
Ouais. Alors vous restez en ligne avec nous, on va poser la même question à Jules Kébé, votre société, votre plateforme de distribution de produits pharmaceutiques a été créée au Sénégal sur un marché qui est très réglementé, c'est le marché de la santé. Aujourd'hui vous avez à peu près 250 employés, les actionnaires sont notamment des pharmaciens. Comment vous avez fait évoluer le modèle économique en près de 10 ans, entre le moment où vous vous entourez d'un tout petit groupe de pharmaciens pour pénétrer le marché des pharmacies et le moment où vous êtes passé à près de 200 pharmaciens actionnaires, un fonds d'investissement français, investisseurs et partenaires, ça devenait complètement autre chose. Racontez-nous, Jules Kébé.
D'abord, c'est le parcours ressemble à celui de M. Inga aussi, disons, sauf que j'ai eu à pratiquer au sein de grands groupes internationaux où j'ai appris le métier dans la distribution pharmaceutique. Après cela, quand je me suis retrouvé derrière le comptoir d'une officine, où je m'ennuyais très rapidement, et j'ai pensé à monter donc ce projet accompagné par ce groupe de pharmaciens. Et je me suis beaucoup intéressé à ce que ne faisaient pas les concurrents, parce qu'on a la particularité d'être sur un secteur où les prix sont réglementés, ce sont les mêmes partout. Et donc, sur l'approche du marché, il fallait s'intéresser tout de suite aux niches d'abord concernant les produits, et puis ensuite concernant les services tout autour. Et bien sûr, ne pas oublier un aspect essentiel du business model qui est de connaître les ressorts de la rentabilité. Donc, chercher la rentabilité, bien sûr. Et aussi, si vous voulez, les aspects développement par rapport aux besoins de la profession. Ça veut dire avoir une grande écoute, une grande proximité avec ses clients, avec ses actionnaires, et pouvoir trouver le juste milieu entre le service qu'on va apporter qui va permettre à tous ces pharmaciens d'adhérer à votre projet, à votre société, mais aussi les impératifs de rentabilité afin d'être en mesure de pouvoir demain distribuer des dividendes et financer sa croissance. Et au départ, il était clair que les premières difficultés qui allaient se poser se positionnaient d'abord au niveau du financement, qui est la question clé. Vous savez que l'activité de distribution au Sénégal consomme énormément de trésorerie et on a besoin pour ça de pouvoir mobiliser assez d'argent pour pouvoir financer l'approvisionnement, la chaîne, compte tenu du fait qu'on a très peu d'industries pharmaceutiques en local. Mmh. Donc, nous faisons beaucoup d'importations.
C'est pour ça qu'il fallait ouvrir le capital au maximum ?
Pour chercher de l'argent. Mais de l'autre côté, on fait également une approche stratégique pour permettre à ces pharmaciens de pouvoir se considérer comme étant partie prenante, totalement engagée en tant qu'actionnaire, avec, je dirais, presque le devoir de faire tourner leur propre boîte, hein, lui permettre de pouvoir faire des résultats. Et nous, pour contourner cet écueil bancaire, on a pensé donc à aller vers les fonds d'investissement tout de suite, afin de profiter non pas seulement de l'apport en termes de finances, mais aussi en termes d'assistance technique, hein, sur le business plan, sur l'œil qu'ils ont par rapport au secteur dans d'autres pays, etc. Donc faire du benchmarking quelque part. Et donc ça a été très déterminant avec le fonds d'investissement.
Ça veut dire que le fonds d'investissement vous a aussi poussé à revoir le modèle économique ?
Il y a eu deux combinaisons. Parce que quand j'ai travaillé sur le business plan, bien sûr, j'avais des ambitions. Mais je mentirais aujourd'hui si je vous disais que j'avais prévu tout ce qui est arrivé par la suite. Parce que c'est en rencontrant des personnes clés du secteur, hein, qui étaient quelque part aussi des leaders d'opinion dans la zone où ils exerçaient, en les rencontrant, je leur ai donné envie. Et ils se sont aussi engagés à mes côtés. Donc ça m'a donné de la force, ça m'a donné envie d'aller plus loin, ça m'a donné du courage, et ça m'a donné donc l'opportunité de revoir le business plan à la hausse, hein, avec beaucoup plus d'ambition. Et quand j'ai rencontré donc le fonds d'investissement, donc là c'était bien sûr l'œil financier, avec tout ce que ça comporte comme avantage, bien sûr, parce qu'il y a d'abord une critique, hein, sur les différents points. Est-ce que les charges sont sous-estimées? Est-ce que vous êtes trop optimiste sur le chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, des questions comme ça qui ont été traitées et qui nous ont permis donc d'avoir un plan donc, qui était quand même bien élaboré, qui comportait des opérations en capital avec des apports de fonds réguliers pendant un certain nombre de temps, qui comportait bien sûr un aspect assistance technique à travers, par exemple, la mobilisation d'experts dans différents domaines qui vous permettaient de pouvoir avancer. Et ça a été vraiment très déterminant. Mmh. Ce qui fait qu'au moment où nous sommes allés voir les banquiers pour négocier la dernière partie, parce que nous, on apportait des fonds propres à travers les pharmaciens, on bénéficiait aussi d'un apport du fonds d'investissement. Et la troisième partie du financement, qui était bancaire, elle est intervenue au dernier moment, en ayant déjà mobilisé de l'argent avec nos actionnaires. Et ça nous a permis de pouvoir gérer cette phase beaucoup plus facilement que l'aurait fait quelqu'un qui démarre à zéro.
Didier Akwété, que vous inspirent ces deux expériences de business? Une entreprise va démarrer avec trop peu d'ambition ou au contraire en sous-estimant les charges qu'elle peut avoir et en sous-estimant aussi ou en surestimant les rentrées d'argent qui ne vont pas être au rendez-vous?
Bah, en fait, je crois que les expériences de Gilles Ndia et Jules Kébé montrent bien qu'un business model est dynamique et évolutif. Et la preuve, c'est que c'est dans le temps qu'ils ont trouvé le bon modèle qui permet de générer de la valeur. Et donc, le deuxième élément est de dire, nous devons générer assez de valeur pour couvrir nos charges, pour que le business soit rentable. C'est pour ça que vous ajustez votre modèle jusqu'à ce que vous trouviez le bon équilibre qui permette de convaincre des investisseurs, des actionnaires, des banquiers. Puis un autre élément sur lequel ils ont insisté, c'est aussi l'analyse du marché et de ce que font vos concurrents ou des acteurs qui peuvent être des acteurs de votre univers de manière générale ou des acteurs proches. Et ça, ça vous permet aussi de regarder comment est structurée la chaîne de valeur et là où les gens se positionnent pour aller capter la part de valeur qui reste encore sur le marché. Donc, je crois que c'est vraiment des exemples extrêmement intéressants qui montrent que c'est pas du tout le business model ne peut pas se construire si on ne prend pas en compte l'environnement de son business, les acteurs et puis surtout sa propre structure. Parce que finalement, vous pouvez trouver un bon modèle, vous gagnez l'argent, mais finalement, vous êtes plombé par vos charges que vous n'en gagnez plus. Et donc, comment vous équilibrez aussi votre modèle de charge dans le modèle génération de revenus.
Gilles-Alexandre Ndia, en Côte d'Ivoire, Jules Kébé le disait à l'instant au Sénégal, ce qui compte aussi, c'est de savoir écouter ses clients. Vous, vos clients, est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à revoir votre business model, à vous ouvrir quand vous êtes arrivé dans les fintech, vous nous disiez finalement c'était un aboutissement assez naturel puisque vous étiez déjà dans le e-commerce en vendant des contenus de presse. Comment les clients vous ont aidé aussi à faire évoluer votre business model, peut-être parfois en vous mettant dans une position inconfortable, je ne sais pas?
Alors la chance, et peut-être la malchance, mais c'est plus la chance qu'on a eue, c'est qu'on était déjà sur Internet. Donc, on avait un contact direct et en temps réel avec nos clients. Donc, ils avaient la possibilité de nous écrire, de faire des petits chats avec nous. Donc, on avait des retours en temps réel, en fait, de tout ce qu'on faisait. Mmh. Et donc, c'était très pratique pour nous de pouvoir ajuster les tirs tous les jours. C'est-à-dire que dès qu'on prenait une décision et qu'on lançait cette décision, on avait des retours instantanément, en fait, des clients, puisqu'ils étaient là, en face de nous, en fait, en virtuel.
Par exemple, la carte prépayée, à un moment donné, les clients vous disent « Mais nous, on ne veut pas qu'elle soit payante, la carte, puisqu'elle n'existe pas, physiquement. »
Oui, ça, c'est un des meilleurs exemples qu'on a eu. On a commencé par une carte virtuelle qui était payante, parce que cette carte, il faut la créer virtuellement. Donc, elle a un coût. Mais le client, en face, lui, il nous dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous la vendre. » lorsqu'elle est déjà dématérialisée.
Oui.
Et c'est vrai, sur la forme, c'est vrai qu'elle est dématérialisée, oui. Donc elle ne devrait pas avoir de coûts.
Oui, le client a donc toujours raison.
Exactement, le client a toujours raison à la fin de la journée.
Mais alors, comment vous faites? Vous décidez finalement que cette carte virtuelle qui a demandé beaucoup de ressources d'ingénierie, d'informaticien, etc., vous allez la rendre gratuite, mais comment vous faites pour faire évoluer le modèle économique et pour vous y retrouver par ailleurs?
Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'on perd sur l'achat de la carte, mais on se rattrape en fait sur le fonctionnement et sur le rechargement de la carte. Donc, en la rechargeant ou en dépensant, c'est là où on monte un tout petit peu les frais pour pouvoir se rattraper.
Effectivement, c'est ce que Gilles explique, c'est le modèle freemium, c'est-à-dire il n'y a pas de coût à l'entrée, donc c'est free, mais une fois que vous rentrez dans le modèle, vous allez payer des frais, vous allez faire vivre le modèle de votre prestataire parce que vous allez payer d'autres choses. Quand vous allez sur des plateformes de recherche d'emploi, par exemple, on vous dit, tiens, les premières annonces, c'est gratuit, etc. Et puis après, on vous vend des services derrière, rédiger un CV, avoir accès au contact du DRH pour lui écrire directement. Et donc, les clients sont de plus en plus sensibles à cela et ça marche assez bien.
Gilles-Alexandre Ndia, vous regrettez rétrospectivement d'avoir fait un peu des allers-retours sur votre modèle économique, d'avoir changé votre fusil d'épaule?
Non. Alors, vous savez, tout ce qu'on regrette, en fait, c'est de l'expérience qui est acquise. Pour nous, en fait, tous ces changements, on n'est pas des dieux. Donc, nos clients nous disent ce qu'ils veulent. L'environnement, l'écosystème nous dit plus ou moins ce qu'il y a à faire, c'est à nous de nous adapter. Mmh.
Jules Kébé, vous voulez ajouter un conseil pour les jeunes qui nous écoutent sur le modèle économique?
Le conseil que je donnerai, il est, disons, en relation avec ce que nous vivons actuellement, la conjoncture actuelle. Il faut apprendre à accepter et également anticiper, bien sûr, et aller sur tous les ressorts qui vous permettront de pouvoir rebondir. Donc, une meilleure maîtrise de ses charges, une efficacité opérationnelle, un partage de la vision aussi avec le personnel. Ça, c'est très important, l'engagement du personnel à travers ce qu'on veut faire. Et je crois que c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir résister, en tout cas, et, disons, avoir encore droit de rêver à un avenir meilleur et utiliser tous les outils, être attentif à son environnement, à ce qui se passe, aux grands changements, et pouvoir les intégrer. Donc, les nouvelles technologies de l'information, bien sûr, nous les utilisons avec nos clients, pour la parapharmacie, pour développer des formations en ligne, des webinaires, etc. Donc, on pense que là-dessus, surtout en Afrique, avec toutes les difficultés que nous avons à pouvoir toucher toutes les populations un peu partout, il est important de pouvoir en tout cas se mettre au service des pharmaciens, des populations à travers ces outils et de pouvoir faire adhérer le plus grand nombre de personnes à une démarche, on va dire, d'ouverture, d'écoute à travers les messages qui peuvent être passés dans une officine de pharmacie. Au Sénégal, je vous donne un chiffre. Il y a 2 ans, une étude avait démontré qu'il y avait 30 millions de personnes qui passaient dans les pharmacies en 1 an. 30 millions de passages. Oui, essayez d'imaginer le nombre de messages qui peuvent être échangés avec les populations. Oui. Donc le rôle du pharmacien dans la santé publique il reste bien sûr central. Et là-dessus, nous y travaillons.
Et d'où l'intérêt d'être aussi à l'écoute de son marché, y compris du client final dans les officines. Gilles-Alexandre Ndia, à Abidjan, vous êtes aussi vice-président de la Fondation pour entrepreneurs Keidan. Vous allez à la rencontre des jeunes dans les écoles pour faire découvrir des parcours d'entrepreneurs. Est-ce que vous leur dites aussi qu'en ce moment, plus le climat des affaires est complexe, plus le monde qui nous entoure est complexe, plus il faut avoir un cap et un business model solide?
Mais oui, alors à travers la fondation, nous sillonnons toutes les écoles avec un instrument qui s'appelle la caravane de l'entrepreneur. Et à travers cette caravane, nous avons des modèles et nous-mêmes qui leur transmettons des messages sur la complexité effectivement du climat des affaires et sur le fait que, surtout dans notre domaine, les nouvelles technologies, elles sont aujourd'hui très avancées, très vulgarisées. Donc plus le temps, en fait, de s'amuser, mais on rentre dans les nouvelles technologies pour gagner de l'argent, pour faciliter la vie et de ne pas se perdre, en fait.
Merci.
Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on a eu la chance de se perdre dès le départ. Mais ça doit être... tout le monde ne peut pas avoir cette chance.
Merci à tous les deux, Gilles-Alexandre Ndia, directeur général et cofondateur de Weblogy, entreprise de marketing digital et de système d'information communautaire sur l'Afrique francophone. Vous avez co-créé Abidjan.net et puis maintenant vous êtes aussi, bien sûr, depuis 2006 dans les fintech avec des cartes prépayées. Et merci à vous, Jules Kébé, directeur général de Duopharm, entreprise de produits pharmaceutiques qui sont distribués dans les pharmacies au Sénégal. Merci à tous les deux.
Merci Emmanuel.
Nous vous remercions.
Didier à côté, avant qu'on se quitte, petite fiche pratique pour tous ceux qui nous écoutent, mieux comprendre pour mieux faire évoluer son modèle économique et son plan d'affaires. Que faut-il retenir des expériences que nous avons racontées ces patrons de PME et des conseils qu'ils donnent?
Alors, le business model, en résumé, c'est la façon dont vous allez générer des revenus, vous allez gagner de l'argent dans votre business. Et donc, pour pouvoir l'élaborer, il faut que vous soyez certain que vous apportez un vrai service au marché, puisque c'est ce service que le marché, le client, va payer in fine. Donc, si vous n'analysez pas bien les attentes de votre marché, de vos clients potentiels, vous aurez du mal à situer votre service dans la chaîne que vous offrez en termes de produits à vos clients. Donc, c'est extrêmement important de garder à l'esprit la notion de création de valeur et de richesse dans le business model. Une fois qu'on a dit cela, il y a des modèles qui existent et ces modèles ne sont pas gravés dans le marbre, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'à travers les expériences que nous avons eues, nous avons vu que le modèle a évolué. Le modèle qu'on appelle le freemium, par exemple, c'est un modèle qui vous permet en fait de faire venir le client sans coût du tout, donc il y a une notion de gratuité. Une fois qu'il rentre dans votre business, vous lui vendez des services. Ce sont les services que vous lui vendez qui vous permettent de générer des revenus. Il y a le modèle de désintermédiation, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a deux acteurs qui ont besoin d'un service. L'un offre, l'autre vend. Il y a quelqu'un entre les deux, typiquement l'agence de voyage. Vous créez une plateforme en ligne pour désintermédier. Donc, vous rapprochez directement celui qui vend le voyage, celui qui l'achète. Donc,
oui, désintermédier. Tout simplement, court-circuiter.
Exact. Et vous prenez une commission au passage pour réduire la chaîne, en fait, de
encore un nouveau modèle économique, ça, pour gagner de l'argent.
Absolument. Vous avez le modèle du commissionnement. C'est-à-dire, vous avez des produits sur une plateforme et à chaque fois que quelqu'un achète, vous prenez une commission. Vous ne produisez rien, vous ne fabriquez rien, vous prenez juste une commission. Donc, il faut bien réfléchir aux différents modèles qui existent aussi lorsqu'on élabore son business plan, puisqu'in fine, le business model, c'est ça qui fait aussi le succès de votre business plan, puisque c'est ça qui permet au business de réussir. Et donc, il est vivant. C'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Il faut le faire évoluer selon la compétition, quel que soit le secteur. selon la compétition, que vous soyez dans l'industrie, que vous soyez dans la distribution, que vous soyez dans le digital, dans le système financier, bah c'est un corps vivant qui évolue selon la dynamique des marchés, les comportements des consommateurs et des concurrents. Et donc, l'innovation, généralement, est au cœur du business model parce que c'est cette innovation qui vous permet de voir là où vous pouvez aller accrocher la valeur.
Conclusion, bien comprendre son secteur, bien comprendre son marché, bien comprendre ses clients et les écouter. Merci beaucoup Didier Akwété. On vous retrouve le mois prochain. Vous revenez chez 7 milliards.
Avec grand plaisir Emmanuel.
Cette émission a été préparée par Delphine de Dianous. Lundi, 7 milliards de voisins. Comment gérer les déchets électroniques? C'est Amélie Beaucourt qui présentera l'émission. Et quant à moi, je vous retrouve ce mardi à Nouakchott avec l'équipe Juliette Brault, Romain Dubrac et le public mauritanien pour un débat sur la réforme de l'éducation. Comment en finir avec les mauvais résultats de l'école? 8% de réussite au bac. Quelle solution pour une école de qualité pour tous? On vous attend nombreux à partir de 10h au Centre culturel de la région de Nouakchott. Et d'ici là, bien sûr, contactez-nous si vous habitez la capitale mauritanienne. 33 7 64 45 51 41. Vous aurez la parole lors de l'enregistrement de l'émission. Dans quelques instants, ce sera le journal. Juste après, Femi One.
Allô, comment est-ce que tu es dit? Weni mwenyeji. Hello. Kama we si mwenyeji. Mind your business. Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale. Basi harakisha njona. Mima inanukia shasha mane. Ustupe nini kwa flona. Supa komudia ladha gane. Nezenda fast au slow. Baby. Haiva nikisikia mabob male. Nkitafta plan ya do. Yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinker, wanawaingiza. Napanda steju, naona miujiza. Originator, baba wakecha. Wananiti, wananiiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kabadoko usha go. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya, siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Proper,
proper,
proper.
Siku die number two wakanichuja daro. Songa jenga shule wajua lipe karo. Saimi ndio speaker Franco Le Caparo. Matutors napiga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang siku toka. So fam ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damus natoka. Nkiroga hinjili na treat kama dini. Saima device inakuja na mzinga. Wanani die na nijuzi waliringa. Mungu wa kisansi unajua wezi pinga. Odds iko right misi chezi na tinga. Ok. Kifemi kijembe kikali. Bila budi na bidu wa kubali. Pata jalu jwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na jes na makali.
Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Propani. Tunaifanyaga proper.
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 Propani.
Yes, nani yako in the zone, aje. Na ana feel right at home, aje. Utajwa nilikuwa kwa chum, aje. Na arufu ya cologne, sorry. Na sijai kosa perform, sorry. Last year lose my phone, sorry. Jana niliota na perform, sorry. Na kabla kuota nili perform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujwe mambo ya drone. Granda imeja na kif. Na grind nikana clone.
Nikana clone.
Kiuliza na nani kuijia pa. Mina sikianga kam na kose shima. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mengia na sikia unaniambia. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja.
Yeah.
Huku isi nisi tunazosa. Tunaifanyaga proper.
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 Tunaifanyaga
7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, le journal.
7 milliards de voisins, c'est fini.